Bon, ça va, vous m'entendez bien? C'est encore une joie pour nous, hein, d'être parmi vous et le Seigneur nous donne le privilège aussi. Je remercie Jean-Claude et vous tous qui nous permettez d'être là et de pouvoir partager avec vous ce qu'on fait, mais pas seulement ce qu'on fait, mais ce que Dieu nous met à cœur aussi. Donc c'est toujours un défi pour moi d'apporter la parole là où nous allons. Et bien sûr, on est aussi impliqué dans notre église locale qui se trouve à Villiers-le-Bel, juste à côté d'Écouen. Et on est à peu près dans notre église 3 dimanches sur 4. Et le reste du temps, on est ici, on est ailleurs. Et donc on propose nos services pour le Seigneur, pour que la prochaine génération soit enseignée, soit sur pied. C'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous. Est-ce que ça va ce matin? Ça va bien? Vous êtes prêts pour manger un petit peu de la parole de Dieu ce matin? Oui? On va prier. Seigneur, merci encore pour cette occasion que tu nous mets devant nous, d'être devant toi et d'ouvrir ta parole. Et on sait que quand on ouvre ta parole, on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu. On ouvre ta bouche et on veut être attentif, Seigneur, à ce que toi tu veux nous dire. Et ce matin, Seigneur, je veux pas juste moi parler, ça servira à rien. Je veux que toi tu parles. Je veux que ton Saint-Esprit touche les cœurs selon les besoins et que tu nous aides à aller plus loin avec toi. Entendons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je me demandais pendant, parce que ça fait un petit mois que j'ai reçu l'invitation, donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais partager à mes frères et sœurs? C'est toujours un défi. Je veux répondre à vos besoins et en même temps on a tellement de besoins. Donc le Seigneur au départ, il y a à peu près un mois, il m'avait mis sur le cœur peut-être de partager quelque chose par rapport à l'épreuve. Et puis j'appelle Jean-Claude et il me dit, écoute, on vient de finir d'étudier le livre de Job. Donc je dis, bon, c'est peut-être pas approprié. Alors je vais pas en remettre une couche, même si je sais qu'on traverse tous des périodes difficiles et qu'on s'accroche. Et comme a dit Ingrid, et c'est toujours mieux avec Dieu que sans Dieu. Ça veut pas dire qu'avec Dieu il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours mieux avec lui que sans lui. Donc on va pas parler de ça ce matin. Mais on va parler de quelque chose que j'ai vraiment à cœur et je pense que c'est une attitude dans notre vie qui va changer notre vie d'église et qui va changer nos vies personnelles. Je suis sûr qu'ici, en tant qu'assemblée, en tant qu'église, ici à Vigneux, vous avez des projets, n'est-ce pas? Vous avez des grands projets. Non? Amen. On veut toucher hein, ce coin de Paris, enfin de région parisienne, et on a des projets, peut-être aussi des projets de pousser les murs, je suis sûr, hein. Et ça, c'est un bon projet, ça veut dire que l'église grandit. C'est super. Mais des projets aussi en tant qu'église, si vous venez, si vous faites partie de cette église, j'espère que vous ne venez pas juste le dimanche, mais aussi que vous êtes impliqué dans la vie de l'église dans la semaine, en tout cas, je suis sûr, c'est le désir de votre pasteur, c'est mon désir aussi, et malgré nos vies un peu folles, qui nous maintiennent très occupés, n'est-ce pas? L'Église, le peuple de Dieu doit être une priorité pour nous. Mais je vais aller encore plus loin que ça, parce que ce matin, vous êtes tous là, et peut-être, moi je ne connais pas votre vie, donc j'ai la liberté de vous parler ce matin. Je ne sais pas si vous venez tous les dimanches, j'espère en tout cas la plupart, et peut-être, vous pouvez venir le dimanche et vous pouvez prétendre que tout va bien dans votre vie. Que puisque vous êtes là tous les dimanches, ça veut dire que le reste de la semaine, ça va. Mais parfois, il n'en est rien. Il n'en est rien. On se pointe le dimanche parce que parfois on veut faire plaisir au pasteur. Ça arrive. On veut juste faire bonne mine et que les autres sachent et voient que on participe à la vie d'église, donc ça va. Si on n'est pas là, ils vont se dire, bon, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils ont changé d'église ou ils se sont éloignés de Dieu. Donc on dit, non, non, on ne s'est pas éloigné de Dieu. Donc on vient tous les dimanches. Mais qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine? Qu'est-ce qui se passe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Entre chaque dimanche. Parce que c'est facile de tromper nos frères et sœurs, de me tromper, de tromper le pasteur. C'est très facile. On peut venir chaque dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre vie, dans ta vie, chaque jour de la semaine? Et je pense que ce dont on va parler aujourd'hui, ça va donner une impulsion à cette assemblée, et même je parlerai de l'Église universelle, mais aujourd'hui, qui sont là la semaine, qui participent, et surtout dont on voit des évidences que Dieu travaille dans leur vie dans la semaine, mais pas juste le dimanche. Alors, si vous voulez bien, on va ouvrir Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, juste en guise d'introduction. Le Seigneur Jésus nous donne un très bon exemple ici. Je vais lire vite fait, hein. Luc chapitre 2 à partir du verset 41. On connaît bien cette histoire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Quand on lit cette histoire, qui est connue, hein, on connaît bien, on se demande « Mais qu'est-ce qu'ils avaient les parents derrière la tête? Ils sont fous, ils ont abandonné leur enfant. » On fait pas ça aujourd'hui quand même. Il a 12 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, il voyageait pas en voiture comme ça. Aujourd'hui, c'est facile de se rendre compte. Ah tiens, il manque un enfant là. Faut le chercher. Parce que la place de la voiture, elle est vide. Mais à l'époque, c'était des grandes caravanes, vous savez. Parfois, ils voyageaient avec des dromadaires ou avec des ânes. Et c'était des grandes caravanes. Et donc, les parents étaient partis devant. Et la caravane, peut-être, elle faisait quelques dizaines de mètres, ou même voire plus. Et du coup, ils ont supposé, puisque c'est le Fils de Dieu, attends, c'est Jésus quand même, c'est Jésus, il est responsable, c'est le Fils de Dieu, il est dans la caravane, c'est sûr, il est là. Et donc ses parents, ils voyagent, mais finalement, ils se demandent, bon, est-ce que t'as vu Jésus? Ah non, j'ai pas vu, et puis ils remontent toute la caravane, et jusqu'en bas, ah non, Jésus est pas là, oh la vache, bon. Alors, c'est Jésus quand même, il faut aller le chercher. Et donc, ses parents lui disent « Mais qu'est-ce que t'as fait Jésus? Tu nous as fait peur, pourquoi t'es resté là ?» Et la réponse de Jésus est absolument hallucinante. Elle est très étonnante. Jésus ne dit pas « Mais n'ayez pas peur, papa, maman, ça va, je suis le Fils de Dieu quand même, faites-moi confiance. » Il dit pas ça à Jésus. Il dit mais pourquoi est-ce que vous me cherchiez ?» Verset 49. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ne saviez-vous pas qu'il faut d'abord que je m'occupe d'abord des affaires de mon père? » Et les parents, après une telle déclaration, ils comprennent pas. Ça leur passe 10 km au-dessus. Ils n'ont pas saisi. Mais quand même, Jésus était soumis, ça dit après, il descendit avec eux pour aller à Jérusalem, à Nazareth, pardon. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus, à 12 ans, il nous montre l'exemple. À 12 ans, il nous montre l'exemple. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, avant toute chose? C'est cette décision qu'on va prendre en tant qu'église, mais encore plus en tant qu'individu, qui va changer notre vie d'église. Parce que moi, je commence parfois à en avoir assez des apparences, mes amis. Il y a trop d'apparences. Déjà que le monde y joue aux apparences, alors ça suffit dans l'église, quoi. N'est-ce pas? Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit transparent. Si on vient les dimanches, et si on s'est occupé des affaires de notre père durant la semaine, tout va bien. Mais on ne s'occupe pas juste des affaires de notre père le dimanche matin. Ça marche pas, ça. On n'oublie pas Dieu du lundi au samedi. Dieu n'est pas trompé par les apparences. On ne trompe pas Dieu. Donc, il faut faire très gaffe, très attention à comment est-ce qu'on vit durant la semaine, pour que notre vie d'église soit véritablement quelque chose de puissant. Et parfois, en tant qu'individu déjà, on se demande, mais comment ça se fait que spirituellement ça va pas trop? J'ai pas la forme, ça va pas, le dimanche, je me rebooste un petit peu, et puis le reste de la semaine, c'est... Comment ça se fait? J'avance pas dans ma vie, j'en ai marre, je sais pas quoi faire, je viens tous les dimanches. Je vois le pasteur, on prie ensemble, on fait des trucs peut-être, mais c'est parce que t'es pas en train de t'occuper des affaires de ton père durant la semaine. Chaque jour de ta vie, ton père a une priorité, ton père céleste. Et Jésus, à 12 ans, il nous rappelle ça. À 12 ans, il nous montre l'exemple. À 12 ans. Qui a 12 ans ici? Personne. Ils sont partis. Il nous montre l'exemple déjà. Alors ce matin, très rapidement, parce que j'ai pas énormément de temps, mais quand même, je veux qu'on puisse réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nous occuper des affaires de notre Père? Et pourquoi est-ce que c'est si crucial de le faire en dehors des dimanches? En dehors des dimanches. Il y a trois obstacles qu'on va voir ce matin, d'accord? Première chose, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nous occuper des affaires de notre Père? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas du temps en clair avec Dieu, dans sa parole, avec lui dans la prière, chaque jour? C'est parce qu'on est paresseux. Pas vrai? On est paresseux. La paresse. Vous savez que la paresse, c'est un thème omniprésent dans la Bible, et surtout dans le livre des Proverbes. On se demande pourquoi est-ce que Dieu insiste tant sur la paresse. Ça veut dire qu'on doit être quand même un peu paresseux quand même. Hein? Sinon, il ne prendrait pas le temps de nous exhorter avec cette vérité. Et je vais juste lire quelques passages, vous n'êtes pas obligé de les trouver, mais si vous voulez les noter, il n'y a pas de problème. Par exemple, Proverbe 26, verset 14, ça dit « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Ah, j'aime bien ce verset. Là, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour réfléchir de quoi parle le texte. C'est quoi le but d'une porte? Une porte, ça fait quoi? Vous avez plusieurs portes ici. C'est ça une porte, non? Une porte, est-ce qu'elle change de place? Elle est toujours à la même place. C'est quoi sa fonction? Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ça, c'est la porte. Et Dieu nous dit que le paresseux, il est comme une porte. Il va jamais nulle part. Il reste toujours au même endroit. Et cet endroit, ça s'appelle son lit. Et il tourne dans son lit comme une porte tourne sur ses gonds. C'est 26-14. Proverbe 26-14. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu, il est contre le fait qu'on passe du temps au lit? Non, Dieu a créé le jour, la nuit, on fonctionne comme ça, n'est-ce pas? On a besoin de la nuit pour renouveler nos forces, c'est normal. Mais la paresse, c'est quand on va au-delà des limites, c'est quand on reste dans son lit, au lieu de nous occuper des affaires de notre Père. Et Jésus, même à 12 ans, il restait pas dans son lit. Même à 12 ans. Il tournait pas dans son lit comme une porte sur ses gonds. Il se levait le matin. Il passait du temps avec son Père. Il s'occupait des affaires de son Père. Quelqu'un a dit, ça sert à quoi de se reposer dans cette vie? On aura toute l'éternité pour le faire. C'est pas faux, mais quand même, il faut se reposer, sinon vous allez avoir des petits soucis de santé. Mais cette phrase, elle veut dire, oui, quelque part, on a l'éternité pour être dans un repos éternel, c'est vrai. Et sur cette terre, Dieu nous demande du temps. Il nous demande du temps pour lui. Pour lui. Proverbe 20, verset 4, ça dit, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Ça, c'est une caractéristique des gens qui sont paresseux. Ils voudraient récolter. Il voudrait avoir des choses, il voudrait que ça se passe. Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien semé. C'est quoi cette attitude-là? D'attendre que les choses tombent du ciel quand on n'a rien semé? C'est les attitudes des enfants, ça. C'est un manque de maturité hallucinant. On ne peut pas vivre comme ça. On n'attend pas que les choses tombent. Oh, je voudrais tel truc, je voudrais. Mais il faut travailler, mon ami! Qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu? Que celui qui ne travaille pas, il mange pas. Il mange pas. Et après, nous, on dit, ah, le travail, c'est une conséquence du péché, c'est Adam et Ève, c'est la faute à Adam. Le travail, pourquoi je dois travailler? C'est Adam. Sacré Adam. Je vais avoir une petite conversation avec lui quand je suis au ciel. Mais c'est pas vrai. Le travail, c'est quelque chose de voulu par Dieu. Dieu a béni l'homme dans son travail. Lorsqu'il travaille, il en récolte les fruits. Et on voit ça tout au long de la Bible. Le travail, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction pour celui qui s'y met et il en récolte les fruits. Et parfois, on voit passer dans la rue des belles voitures ou des gens qui roulent en Mercedes et tout. Peut-être qu'ils ont travaillé aussi. Donc, ils ont droit d'avoir ces voitures-là, non ? Oui ? N'est-ce pas ? On voit des belles maisons, on voit des belles choses. Et peut-être que c'est parce qu'ils ont travaillé. On n'a pas le droit d'envier ces choses-là quand nous, on ne bosse pas. Si on ne bosse pas, on n'a pas le droit d'avoir... Non ! On ne peut pas attendre, Seigneur, donne-moi une Mercedes, s'il te plaît. Mais si tu travailles pas, ça va pas tomber du ciel, d'accord? C'est des exemples, hein. Après, c'est vrai que le Seigneur, il est fidèle et parfois, il nous donne au-delà de notre espérance. Et moi, j'ai des histoires, même dans notre propre vie de famille, on pourrait vous raconter. Dieu est bon, c'est vrai. Il donne au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer. Mais gloire à Dieu. C'est pas, ça vient pas de nous. Romains chapitre 12, verset 11 nous exhorte, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ayez du zèle et non de la paresse. Du zèle et non de la paresse. Matthieu 26, 41, il dit « Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Qu'est-ce qui se passe souvent quand on sort d'ici le dimanche après le culte ? Notre esprit, il est comment ? Notre esprit, il est bien disposé, n'est-ce pas ? On est reboosté. Oui, je vais passer du temps avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible, et ça, c'est une réalité. Veillez, demeurez ferme dans la foi, nous dit 1 Corinthiens 16, 13. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Le fait d'être un homme, c'est caractérisé pas par être paresseux, mais... bien au contraire, à veiller, à être ferme dans notre foi. Et pourquoi ça ? Parce que même 1 Pierre 5,8 nous dit, notre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion. Quand tu te tournes dans ton lit et que tu te reposes, il n'y a aucun mal à ça. Tu sais ce que le diable il est en train de faire pendant ce temps ? Il est en train de rôder, il est en train d'imaginer comment il va te faire tomber dès que tu te lèves le matin. Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Le diable, il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas. Tu te rends compte ? Quand moi je dors, quand toi tu dors, lui dort pas. C'est pas bon pour nous, hein. Et dès que tu te lèves le matin, ça y est, il se jette sur toi et il veut te pourrir ta journée. Ça, c'est la réalité. Donc c'est pour ça que la parole nous dit « Veillez, veillez, soyez pas paresseux. » Alors après, pour terminer ce thème, qu'on pourrait discuter pendant longtemps, mais Proverbe 20, verset 13 nous dit « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » N'aime pas le sommeil. Alors c'est fort, c'est trop fort. Bon, ça se fait que Dieu il dit « N'aime pas le sommeil. » Moi j'aime bien le sommeil, surtout quand je suis fatigué. C'est un peu normal. Mais Dieu, il est extrême dans sa façon de nous parler parfois parce qu'on ne comprend pas les choses. Et il dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Les gens qui dorment trop, qui sont paresseux alors qu'ils pourraient se lever plus tôt, ils loupent des choses et ils deviennent pauvres. Ils s'appauvrissent. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Alors on pourrait penser, bien sûr, sur un domaine matériel, évidemment, si tu es trop paresseux dans ta vie, tu vas t'appauvrir. Parce que tu vas rien faire, tu vas pas bosser, tu vas pas pouvoir te nourrir. C'est logique, non ? Mais dans la vie spirituelle aussi. Si tu es paresseux spirituellement, tu vas t'appauvrir spirituellement. Et là, ça dit, ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Le pain, qui a dit « Je suis le pain du ciel » ? Jésus-Christ. « Je suis le pain descendu du ciel. » On doit se nourrir de Jésus-Christ. Et ce n'est pas en dormant qu'on peut le faire. Bien éveillé, se nourrir de Jésus. La paresse, c'est un obstacle. Et moi, je vous parle de la paresse, mais ma femme elle pourrait vous dire, je suis quelqu'un d'assez paresseux aussi, ça m'arrive. Et je dois lutter dans ma vie et me discipliner. Il y a des gens ici, on est tous différents. Il y en a qui sont plus paresseux que d'autres, c'est vrai. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui ne sont pas du matin. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et comment Dieu t'a créé, il faut que toi tu te battes contre ça. et il faut que tu arrives à t'occuper des affaires de ton père bientôt le matin. Et ne pas donner lieu à la paresse, parce que c'est dans la paresse que le diable gagne du terrain dans ta vie. Deuxième obstacle au fait qu'on évite de passer du temps avec Dieu, ou on évite de s'occuper de ses affaires, c'est complètement l'opposé de la paresse, c'est l'activisme. On fait trop de choses. Notre assiette est déjà pleine et on la surcharge encore. Vous savez, il y a des gens comme ça. Malheureusement, j'en connais. On appelle ça des activistes qui pensent que plus ils font d'activité, plus ils sont spirituels, plus ça va. Plus je me montre, plus je fais des choses, plus ça va avec Dieu. C'est pas vrai. La Bible nous parle qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. Un temps pour tout. Il y a un temps pour faire des activités. Il y a un temps pour arrêter de faire des activités. Il y a un temps pour se reposer. Je connais des chrétiens, quand on leur parle de se reposer, ça y est, ils se sentent coupables. Non, on ne doit pas se reposer. On est chrétien. On doit être actif pour le Seigneur. Oui, tu as raison. Mais tu dois te reposer. Si le Dieu de l'univers s'est reposé le septième jour, après avoir fait la création, est-ce que tu crois que Dieu avait besoin de repos ? Est-ce que tu crois que Dieu a besoin de se reposer ? C'est Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa force. Il est l'énergie même et son essence, sa puissance. Il n'a pas besoin de se reposer. Pourquoi l'a-t-il fait ? Pour nous donner un exemple. Pour nous dire, ça sert à rien de faire le monde en six jours. Hein. Si tu continues comme ça, tu tournes et tu vas t'épuiser. Il faut te reposer. Il faut prendre du temps avec moi. C'est plus important que de faire des activités. Être est plus important que faire. Et dans la Bible, on a ces exemples de ces hommes de Dieu qui nous montrent l'exemple par rapport à leur activité. C'était des gens qui étaient bien actifs, mais ils arrivaient à prendre du temps aussi pour le Seigneur. Je lis quelques passages vite fait comme ça. Genèse chapitre 19, verset 27, ça dit « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. » De bon matin. Exode 34, 2, par rapport à Moïse, il dit « Sois prêt de bonne heure. Tu monteras dès le matin sur la montagne. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Et David qui dit dans Psaume 143, 8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Dès le matin. Et comme si ça ne suffisait pas, parce que les hommes, ils ont leurs erreurs, mais eux, dans cette habitude-là, ils avaient parfaitement raison. Comme si ça ne suffisait pas, on a l'exemple des exemples. C'est le Seigneur Jésus. Marc chapitre 1, verset 35, il dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Jésus-Christ, lui-même, on dit mais il n'a pas besoin de passer du temps avec Dieu, c'est Dieu lui-même, il est toujours connecté avec lui-même. Mais même Jésus-Christ, de bon matin, il allait chercher son Père à genoux, demander des forces pour accomplir cette mission que Dieu lui avait donnée. Et je suis sûr qu'il allait prier pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. En tant qu'homme, il avait besoin de se ressourcer en Dieu. Nous sommes des hommes, des femmes, des êtres humains. Alors évidemment, quand je lis tous ces passages, ça, tout de suite, ça met les pendules à l'heure sur cette fameuse question, quand est-ce qu'on doit passer du temps avec Dieu ? C'est quoi la réponse biblique ? Bon, dès le matin. Dès le matin. Les gens qui me disent, moi je passe du temps avec Dieu le soir, je dis, c'est bien, mais fais-le aussi le matin. C'est pas une question de, oui, moi je suis comme ça, le soir ça va mieux pour moi. Oui, mais et le matin ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est un peu cette image bête d'un soldat qui part à la guerre et il enfile son armure quand il va se coucher. Vous voyez, c'est bête, ça n'a pas de sens. On n'enfile pas son armure quand on va se coucher. On ne dort pas avec son armure. Vous voyez ce que je veux dire ? Dès le matin, on se lève, on enfile son armure, on passe du temps avec Dieu. La journée commence, le diable est à l'œuvre. Dès le matin, Jésus nous l'a montré, Abraham nous l'a montré, Moïse nous l'a montré. Dès le matin, Josué, plein d'autres. Si vous ne le faites pas le matin, soyez rassurés, vous ne le ferez pas de la journée. C'est difficile, non ? C'est dur. Je vous parle d'expérience. Je ne suis pas un ange. Je suis comme vous. Si je ne le fais pas le matin, c'est très probable que la journée va se terminer et que je ne l'aurai pas fait. Très probable. Pourquoi? Parce qu'on rajoute des choses sur notre assiette. On est actif, trop actif. Dieu non plus. Ce n'est pas sa volonté d'être actif au point de le laisser de côté. Et si vous passez du temps avec Dieu le soir, super! Super! Mais le soir, vous donnez quoi à Dieu? Des miettes? Le reste de ce que vous avez encore? Vous avez transpiré toute la journée, voilà, vous avez besoin de prendre une bonne douche, et voilà, vous passez du temps avec Dieu. Tout ce qui reste de vous, c'est ça? Et Dieu, il a besoin de comprendre qu'il est important pour vous. Dès le matin, je me lève, top priorité. Seigneur, c'est toi. T'es la première chose à laquelle je pense. T'es celui en qui je veux me remettre en premier, avant n'importe quoi d'autre. Ça, il y a quelque chose de spécial par rapport au matin. Vous pensez pas? Le matin, c'est le silence. C'est comme une renaissance. C'est chaque jour renaît. Vous trouvez pas? Même avant que le soleil se lève. Bon, moi, je le fais pas avant que le soleil se lève quand même. Mais dès le matin, c'est un silence. Quand les enfants dorment, pour ceux qui ont des enfants, c'est spécial. Une fois que les enfants sont debout, mais c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Sérieusement, c'est pas la peine. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, encore mieux. Vous pouvez passer plus de temps dès le matin. Je dis à Dieu qu'il est important pour moi dès le matin. Et Jacques nous donne une astuce par rapport au fait que ceux qui veulent être actifs pour Dieu, il n'y a aucun problème, il faut des gens actifs pour le Seigneur. Mais c'est tout un équilibre ici, on n'est pas des légalistes, vous voyez? C'est quoi le légaliste? C'est celui qui dit « Non, tu ne te reposes pas, tu travailles pour le Seigneur, c'est tout, pas de repos, tu te reposeras quand tu seras mort. » Ça, c'est le légaliste. Mais Dieu est contre le légalisme, mes amis. L'apôtre Paul a dû se battre déjà avec ça, avec l'église de Corinthe et d'autres. C'est très clair dans la Bible que Dieu est un Dieu d'harmonie, d'équilibre, d'ordre. Actif, repos. Faut pas se sentir coupable quand vous êtes là dans votre fauteuil et vous faites rien. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Je médite, je prie, je passe du temps avec Dieu. Ou même, je me repose tout simplement. Dieu n'est pas contre ça. D'accord ? Donc je vous parle très librement, hein, mais je vous connais pas. Hein, donc je parle pas parce que je vous connais. Hein. Je vous connais pas dans votre vie personnelle. Et Jacques nous dit dans le chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, donc des activités, celui-là sera heureux dans quoi ? Dans son activité, justement. Mais tu peux pas être heureux dans ton activité quand t'as loupé Dieu le matin. Tu comprends ? C'est pas possible. Tu seras pas heureux. Tu vas faire des choses. Ce sera un leurre. Tu vas te tromper toi-même. Ah, c'est bon, je fais des choses. Tant que je fais des choses, ça va. Si je m'arrête, ça va plus. Si tu passes du temps avec Dieu, si tu plonges tes regards dans sa parole, alors tu seras heureux dans ton activité. Il faut inverser, les amis. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein ? Dans les priorités de notre vie. Donc, premier obstacle, les paresseux, la paresse. La Bible en parle beaucoup. Hein ? C'est vrai que quand on est jeune, parfois, on a plus tendance à traîner au lit, mais je ne m'adresse pas juste aux jeunes ce matin, parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait « Plus on vieillit, et moins on a besoin d'heures de sommeil. » Apparemment, c'est ce qui a été démontré. Bon, je ne sais pas, moi j'ai toujours un peu de mal parfois le matin, mais apparemment, les personnes âgées, elles pourraient vous dire « J'ai pas besoin de tant d'heures de sommeil que ça. » Bon, merci Seigneur, c'est positif dans un sens, parce que ça nous aide à passer plus de temps avec Dieu. Plus on vieillit. Mais en tous les cas, Dieu veut qu'on se lève le matin et qu'on passe du temps avec lui. Même si ça nous coûte 15 minutes, 20 minutes de notre sommeil, c'est rien. Quand on fait tout ce qu'on a à faire dans la journée, si on lui donne au moins 20 minutes, une demi-heure, qu'est-ce que c'est dans 24 heures? Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Dieu, il nous attend. Jésus, à 12 ans, il s'occupait des affaires de son Père. À 12 ans. Et nous, on en a 30, 40, 50, et parfois, on ne le fait pas. Assez. Deuxième obstacle, donc, l'activisme. Trop d'activité tue l'activité. Il faut être équilibré. Il ne faut pas se sentir coupable quand on se repose, quand on prend du temps pour Dieu, quand on... Voilà, qu'on arrête un petit peu. Et troisième obstacle, bien sûr, qui est très grave, c'est le péché. Le péché qui va nous empêcher, bien sûr, de passer du temps avec Dieu. Évidemment, s'il y a des pratiques dans ta vie que tu renouvelles et des habitudes qui sont contre Dieu, forcément, tu n'auras pas envie de passer du temps avec Dieu parce que le péché va te maintenir sous sa domination. Et tu ne voudras pas passer du temps avec Dieu. Parce que le péché et Dieu, ce n'est pas compatible. D'accord ? Romains chapitre 6 nous exhorte, hein, verset 10, il dit « Car il est mort », il parle de Jésus, « Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. » N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Jésus a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Il l'a fait à la croix. Quand il est mort à la croix pour tes péchés, il s'est occupé de tes péchés passés, de tes péchés présents, de tes péchés futurs. Parce que l'œuvre de Christ est complète. C'était quoi les derniers mots de Jésus sur la croix ? Ses tout derniers mots. Tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Aucune religion, aucune œuvre, rien. Je viens de tout accomplir. Il était en train de dire ça ? Tout est accompli. Il ne voulait pas juste dire « c'est bon, j'ai fait mon job ». Il a dit « il n'y a rien à rajouter après ça. Tout est fait. J'ai tout fait. Je suis mort pour tous les péchés. » Rien à rajouter. Donc quand Jésus a fait ça pour toi et moi, qui en est-nous pour rajouter du péché à notre vie ? On ne peut pas faire ça. Alors tu me dis, oui, mais Alex, on est pécheurs, quoi. Oui, d'accord. C'est vrai qu'on est enfermé dans ce que l'apôtre Paul appelait cette tente, hein, n'est-ce pas, ce corps mortel, terrestre, ce corps de péché. Mais Dieu, il nous a donné quelque chose aussi pour, hein, n'est-ce pas, nous éviter de pécher. Nous éviter de pécher au maximum. Alors tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je pêche tout le temps ? J'en ai marre de pécher. Bon, peut-être parce que tu n'es pas en train d'être dans la parole de Dieu. Et donc, forcément, tu vas continuer de pécher. Tant que tu t'éloignes de ce bouquin, tu vas te rapprocher du péché. Mais si tu te rapproches de ce bouquin, tu vas t'éloigner du péché. C'est une réalité. Ne pense pas que tu peux éviter de pécher en maintenant ce livre fermé. C'est pas possible. Tu vas te surprendre. Tu sais pas, t'as surpris d'ailleurs. Tu vas continuer de pécher. Et Dieu est quelqu'un de vraiment radical avec le péché. Vous voyez, bon là j'ai lu juste trois versets, mais la Bible en parle de bout en bout. Le péché, c'est quelque chose de gravissime, c'est quelque chose qui est très douloureux pour Dieu, à tel point qu'il a dû imaginer un plan pour en finir avec le péché. Si Dieu il s'en fichait du péché, bon, il aurait rien fait pour, n'est-ce pas ? Mais ça l'a tellement détruit, Dieu. Ça l'a tellement tué, même d'ailleurs, ça a tué son propre fils. Que oui, ça le blesse terriblement quand il voit ses enfants qui ont été rachetés par son sang, qui continuent de vivre dans le péché. Et pourquoi est-ce que Dieu est radical avec le péché ? Parfois, vous connaissez ce verset qui dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il faut l'arracher carrément. Il faut l'arracher. On ne va pas se mutiler pour Dieu. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire Dieu dans ce sens ? Quand il dit « N'aime pas le sommeil, arrache ton œil. » Enfin, c'est radical, c'est fort. Mais il veut dire « Si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, si par tes yeux tu pêches, il vaut mieux abandonner cette pratique. Il faut couper court au péché. Il faut que tu arraches cet œil-là. » qui est en train de pécher contre Dieu, plutôt que de le laisser pourrir dans ton orbite. Tu comprends l'idée ? Si tu laisses que le péché ronge ton corps, ça va affecter tes yeux, peut-être tes mains, ta langue, tes oreilles, ça pourrit, il faut couper. Vous savez, la meilleure solution parfois, des gens qui ont des problèmes, peut-être vous en connaissez, qui ont été amputés, pourquoi ils ont été amputés? Pourquoi on leur coupe le bras, ou on leur coupe la main, ou même la jambe, pour en finir avec l'infection qui se répand comme une gangrène? C'est terrible. Et donc les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, il faut couper. Parce que si on coupe pas, vous allez mourir. Si on coupe pas, ça va vous envahir, ça va vous pourrir votre corps entier. Il faut couper. Et Dieu nous invite à couper avec le péché. Couper. En tant qu'église, en tant qu'individu, là je m'adresse à vous, en tant qu'assemblée, je suis sûr que tous les projets que vous avez, qui sont absolument fabuleux, ils vont prendre vie et ils vont être tellement plus efficaces quand chacun d'entre vous, vous allez vous occuper des affaires de votre Père chaque jour. Et que le pasteur, il peut dormir sur ses deux oreilles en sachant que chacun d'entre vous, vous passez du temps avec Dieu chaque jour. Et pas juste le dimanche avec un grand sourire, mais la semaine, il n'y a rien. Comprenez ça? Moi, je rêve avec une église comme ça. Pas juste vous, l'église universelle. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le font déjà, c'est merveilleux. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres ici qui juste passent par-dessus ça. Et qui pensent qu'en venant chaque dimanche et juste en appartenant à une église, ça va quoi. Ça va pas. Ça va pas pour Dieu, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Dieu, tu peux pas le tromper. Et l'apôtre Jean, il nous donne une astuce par rapport au péché, là... Je suis sur la fin. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc en fait, il est en train de dire, voilà, ce bouquin-là, il a été écrit pour vous éviter de pécher. Donc forcément, plus vous êtes dans ce bouquin, moins vous péchez. Ça ne veut pas dire que vous pécherez plus. C'est pas possible. Moins vous péchez. Mais il dit, il n'est pas bête. L'apôtre Jean, il sait bien de quoi on est fait. Il dit, si quelqu'un a péché, bien sûr, ça va arriver. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Nous avons un avocat. Jésus-Christ se tient devant Dieu chaque fois que le diable vient nous accuser. Vous voyez cette image impressionnante? Le diable, il vient devant Dieu et il dit, regarde ce qu'il a fait, lui, ce chrétien, que tu as sauvé par ton sang, tu l'as racheté. Regarde ce qu'il a fait. Regarde quel mauvais chrétien, quelle mauvaise chrétienne. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il se lève à la droite du Père et il dit « J'ai payé pour ce péché. J'ai payé pour ce péché. J'ai payé pour ce péché. » Ça, c'est ce que Jésus-Christ fait tous les jours pour toi et pour moi. Moi, j'ai pas envie de faire se lever Jésus-Christ 36 000 fois par jour, franchement. Honnêtement, ça doit être fatigant pour lui. Non, blague à part. Vraiment, j'ai envie de vivre une vie avec le moins de péchés possible dans ma vie. Mais si nous avons péché, nous avons cette assurance que Dieu nous pardonne, bien sûr, en Jésus-Christ. Il a tout payé. Il nous faut juste confesser nos péchés. Ça fait partie aussi de ce temps avec Dieu, de régler nos affaires avec notre Père Céleste aussi. C'est la confession, tout un autre thème. Confesser nos péchés, jour après jour. Nous sommes pécheurs. Même dans nos pensées, nous péchons. Ingrid l'a déjà évoqué ce matin, mais comment rendra-t-il pur son sentier, le jeune homme, la jeune femme, en se dirigeant d'après ta parole, en gardant ta parole? C'est la seule façon de pécher le moins possible. Le péché, comme je vous l'avais peut-être déjà dit, je ne me souviens plus, ça doit être un accident dans notre vie, n'est-ce pas? Un accident, et non pas une habitude. Un accident, ça doit être quelque chose de ponctuel. Vous voyez l'idée? J'espère que vous n'avez pas des accidents avec votre voiture tous les jours, hein, sinon c'est pénible, c'est fatigant. Vous ne vous levez pas le matin en disant « Oh Seigneur, protège-moi de cet accident, que je reste en vie ». Non, les accidents, ça arrive ponctuellement, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez déjà souffert des accidents, c'est terrible, mais merci Seigneur, si vous êtes là, ça veut dire que c'était juste un dommage matériel. Mais un accident, c'est ponctuel, c'est pas une habitude, et parfois nous, on traite le péché, et on joue avec le péché, et on se met dans le péché jusqu'aux oreilles. Par habitude, tous les jours, comme ça, alors que Dieu nous dit, c'est un accident qui doit arriver. Je sais que tu vas pécher, mais que ce soit quelque chose de ponctuel. Ça nous arrive combien de fois dans notre vie, les accidents, mes amis? Une fois, deux fois, trois fois, peut-être. Ça ne nous arrive pas tous les jours. C'est comme ça que Dieu, il veut qu'on vive. Alors, pour terminer cette parole, ce message, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas du jour au lendemain. Ce qu'on prêche aux jeunes durant nos camps d'été, à fond, et on trouvait que ce message c'était approprié aussi, pourquoi ? Parce qu'on leur dit « passe du temps avec Dieu ». C'est la seule habitude qui va sauver ta vie, de faire n'importe quoi, et de perdre ton temps, et de tourner autour du pot, et tu rentres dans un labyrinthe, tu vois pas la sortie, tu penses que tu marches, tu penses que ça va, tu penses que tu vas dans la bonne direction, mais tu tournes en rond si tu passes pas du temps avec Dieu chaque jour. Et il y a quelques versets aussi dans le livre des Proverbes qui attirent mon attention, ça parle de la sagesse. La sagesse, on a tellement besoin de sagesse, n'est-ce pas ? Et Proverbes chapitre 8, verset 1 nous dit « La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ?» Ça dit « C'est au sommet des hauteurs, près de la route, à la croisée des chemins qu'elle se place. Elle crie. Elle élève sa voix. » Et moi, je me suis posé la question, quand je lis ce verset, je dis mais c'est quoi la raison pour laquelle la sagesse crie ? Pourquoi est-ce qu'elle crie ? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de crier ? À votre avis, pourquoi la sagesse a-t-elle besoin de crier ? Hein ? Parce que personne n'écoute ! N'est-ce pas ? Si je commence à parler comme ça, très fort, c'est parce que vous seriez tous en train de faire vos affaires, là, personne m'écoute, et je dis « Hello, je suis là !» La sagesse, elle fait ça. Tu sais, ce livre, il crie parce qu'on l'écoute pas. C'est terrible. Je dis « Pourquoi la sagesse a-t-elle besoin de crier ? Parce que personne l'écoute. Nous inclus. » Déjà que le monde, il s'en fiche complètement de la sagesse de Dieu, il fait sa vie, et il l'écoute absolument pas. Mais nous, chrétiens, parfois, on laisse ce bouquin fermé pendant des jours. Et c'est comme s'il y a une petite voix là-dedans qui est en train de hurler. Dire « Ouvre-moi, tu veux ? Écoute-moi, arrête-toi dans ta folle vie. » Et vous savez, les amis, plus on va avancer dans cette génération, maintenant on est une génération d'écrans. Vous savez, ça passe partout par les écrans. La télé, les téléphones, les iPads. On est dans les écrans. Et ça va pas s'arranger, hein. C'est pas un scoop que je vous dis, hein, mais ça va pas s'arranger. Et toutes ces choses que le monde met en place pour nous, qui sont des outils, certes, qui sont très utiles, hein, comme cet ordinateur et d'autres. J'ai aussi un ordinateur, etc., des téléphones. Mais c'est très utile, mais si ça commence à nous bouffer notre temps avec Dieu, là, on court à la catastrophe. Et ce monde, il va tout faire pour nous divertir, pour nous maintenir sur les écrans, plutôt que de maintenir nos yeux fixés sur Jésus. Ce monde, il va tout faire pour ça. Et ça fait que commencer. Et moi, j'ai très peur pour mes enfants. Hein. Pour mes filles, là. J'ai très, très peur. Je dis, quand elles seront adolescentes, là, déjà qu'aujourd'hui, c'est... Je sais pas comment ça va se passer. Mais nous, en tant que parents, on a une énorme responsabilité de les détacher des écrans. Hein ? Et notre attitude, ça doit être de la discipline. Et je termine avec ça. La discipline. On n'aime pas ce mot, la discipline, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'on doit se discipliner ? J'aime pas vivre la discipline, j'aime bien être un électron libre. Il n'y a pas de mal à être un électron libre, mais si t'as pas un minimum de discipline dans ta vie, la vérité c'est qu'on va arriver à rien. On va tourner en rond. Parce que la discipline, elle nous aide à prendre des choix qui vont définir nos priorités. C'est ça qu'est fait la discipline, vous comprenez ? Si je suis pas quelqu'un de discipliné, qu'est-ce que je fais le soir quand je rentre du boulot ? Je m'affale dans le canapé, je prends la télécommande et j'appuie sur le bouton rouge. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on fait, non ? Ça, c'est un manque de discipline. Parce que si tu fais ça tous les soirs, désolé de t'apprendre cette nouvelle, mais tu n'es pas quelqu'un de discipliné. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin de la facilité. D'accord ? La facilité. Et je sais bien qu'on a des semaines chargées et le boulot, ça nous monte à la tête et c'est, on a tellement besoin de se détendre. Il n'y a pas de problème. Bon, il n'existe pas que l'écran pour se détendre, hein. Même si le monde voudrait nous faire croire que c'est la seule façon de se détendre. Mais ce qu'on a mis en place, par exemple, avec Ingrid et moi-même, juste pour raconter, c'est, on s'aide mutuellement parce que si Ingrid n'était pas là, je pense que je passerais beaucoup plus de temps devant la télé que je ne devrais, et vice versa peut-être. Mais en tout cas, on s'aide. On dit bon. Écoute, la télé, c'est quelque chose de bon dans certains aspects. Il y a des bons films qui passent parfois, c'est vrai. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des légalistes. Non à la télé, non. Je connais des chrétiens comme ça qui disent non à tout. Bon, après, si tu veux t'enfermer dans un monastère, c'est ton choix. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre comme ça. On est dans le monde, n'est-ce pas? On fait partie du monde, mais on n'est pas du monde. La télé, il faut faire gaffe. Dieu nous appelle à être des gens disciplinés, à choisir ce qu'on regarde. On bouffe pas tout ce qui passe à travers l'écran. Vous savez, la télé, c'est comme un camion poubelle hein, qui passe chez vous. La télé, elle vide ses ordures chez vous. Chaque fois qu'elle est allumée, elle vide. Vous avez l'image, c'est dégoûtant. T'imagines rentrer chez toi et puis t'as un tas d'immondices là devant ta télé. Tu dis, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Mais c'est une image pour dire les ordures qui nous bouffent. On doit faire des choix, des priorités. Donc Ingrid et moi, par exemple, on dit, bon, un tel soir, on va se mettre devant Dieu, à genoux, on va prier, on a un petit carnet de prières, puis on prie pour les personnes, pour notre famille, etc. Demain soir, on peut regarder un bon film, par exemple. Ouais, il y a des très bons films qui sont très divertissants, il n'y a aucun problème. Après, le lendemain, on va lire un petit peu, tiens, on va lire la Bible ensemble, je sais pas, on va... Vous voyez? Mais c'est ce qu'on fait. Je vous mens pas, hein, pourra vous dire. On regarde très rarement la télé 2 soirs de suite. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on plonge dans cette facilité-là, on va louper des choses que Dieu a pour nous et on va tomber dans une routine d'échec. Et c'est pas bon. Voilà, bon, j'ai parlé juste de la télé. Je pourrais parler de 10 000 autres choses, mais parce que c'est quelque chose. On a du mal avec ce bouton rouge, hein, le fameux bouton rouge, n'est-ce pas? Il faut maîtriser ce bouton rouge, les amis. Hein. Mon père, il aimait bien me dire, il me dit, c'est ce bouton qui va te maîtriser ou toi, tu vas le maîtriser, hein. Ouais, le bouton rouge. Il faut savoir appuyer dessus aussi, pas juste pour allumer la télé, mais pour l'éteindre. Pour l'éteindre. Bref, Dieu, il a besoin qu'on soit des gens disciplinés pour qu'on fasse attention à lui et qu'on passe du temps avec lui. Et ça ne doit pas être juste une envie, parce que si c'est une envie, demain tu as envie, après-demain tu n'as pas envie. Ça doit être un besoin qu'on se crée, d'accord? Un besoin. Beaucoup d'entre vous, vous allez au boulot et vous passez des heures peut-être dans les transports en commun. C'est difficile, mais vous n'y allez pas parce que vous avez envie, hein. Franchement, si vous êtes honnête avec moi, est-ce que vous avez envie de vous coltiner 2 heures ou 3 heures dans les transports en commun? Pas du tout. Mais vous le faites parce que c'est un besoin. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et s'il n'y a pas d'argent qui rentre, votre famille, elle mange pas. D'accord? Même les gens du monde, ils ont compris ça. Et nous alors? Nous. On ne doit pas vivre selon nos envies, c'est les enfants qui font ça. J'ai envie de ça, j'ai envie des sucettes, j'ai envie de machin. J'ai besoin de passer du temps avec Dieu. Comme chaque jour, j'ai besoin de m'alimenter pour vivre. Je vais pas dire, oh, ça y est, j'ai plus envie, donc je mange plus pendant une semaine. Décision. Bon, tu vas pas y arriver. Parce que c'est un besoin. Eh ben, le Seigneur, il attend à ce que notre vie spirituelle soit calée sur un besoin spirituel. De rencontrer Dieu chaque jour. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Pour lui, c'était un besoin. Il n'a pas dit, j'ai envie de m'occuper des affaires de mon Père. Non, parce que demain, j'ai plus envie. Il a dit, il faut. Si pour lui, c'était essentiel et c'était une connexion vitale, bon, nous, on est qui pour dire, non, Dieu, ça va, tranquille, hein, juste le dimanche, ça va aller. On n'est personne pour dire ça. Vous comprenez? Et je termine avec ce verset magnifique, Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Que le Seigneur nous aide. Oui, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, de nous aider à te suivre et surtout à cultiver cette habitude vraiment essentielle. De passer du temps avec toi, d'arracher du temps, de prier, de lire ta parole, de te laisser nous parler. On parle beaucoup, Seigneur. Parfois, il faut juste t'écouter. Et il n'y a rien de mal à juste s'arrêter. Passer du temps avec toi. Aide-nous aussi à nous lever le matin, Seigneur. Donne-nous les forces. On sait que les journées sont longues aussi. Mais parfois, juste en nous couchant pas trop tard, c'est pas compliqué de se lever tôt. Aide-nous, Seigneur, à avoir une discipline de vie, une hygiène de vie qui te glorifie. On ne peut pas juste vivre comme on veut, parce qu'on appartient au roi des rois. Ça n'exclut pas le fait que toi, Seigneur, tu veux qu'on vive à ta façon. Et ta façon, c'est que tu veux qu'on te connaisse. Et pour te connaître, il faut passer du temps avec toi. Merci de nous aider, Seigneur, à cultiver cette habitude dans nos vies personnelles, jour après jour, pour la gloire de ton nom et pour l'avancement même de ton Église. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.